Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Vladimir Stoupel. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je vous reçois à l'occasion de la parution d'un disque consacré à trois compositeurs français que vous venez d'enregistrer aux côtés de la violoniste Judith Ingolfsson, avec laquelle vous avez déjà enregistré beaucoup de disques avec des programmes souvent passionnants et puis parfois inédits. Et là, alors, il y a une part connue sur ce disque. La sonate, la deuxième sonate de Ravel pour violon et piano, et puis la sonate de Poulenc pour violon et piano, qui n'est pas l'œuvre de Poulenc la plus jouée, on joue plutôt son œuvre de musique de chambre pour instrument avant et piano, mais cette sonate, elle est un peu la mal-aimée des œuvres de Poulenc de musique de chambre. Et puis, alors, un compositeur que je ne connaissais pas, Ferrou. Alors, vous êtes, Vladimir Stoupel, vous adorez les découvertes.
Tout à fait. Tout d'abord, je suis très heureux de pouvoir faire cette interview avec vous, merci beaucoup de m'avoir invité. Les œuvres présentes sur ce disque représente un chapitre dans l'histoire de la musique française pour violon et piano. C'est un disque qui se trouve dans la lignée de nos trois disques précédents qui ont été conçus autour de compositeurs dont la vie a été altérée ou même brisée par la Première Guerre mondiale. Nous avons sorti une trilogie autour d'Albéric Magnard, Louis Vierne et Gabriel Fauré, qui s'appelle le Concert Centenaire. Cette trilogie a été d'ailleurs labellisée par la Mission Centenaire 14-18 et ce soutien de la Mission Centenaire nous a permis de faire sortir ces trois disques. Ce disque-là, donc, avec Poulenc, Ferrou et Ravel, représente l'histoire de la musique française entre deux guerres. La sonate de Ravel, qui date de 1927, la sonate de Ferrou, qui date de 1929, et la sonate de Poulenc, qui date, ce qui est intéressant, de plusieurs années, parce qu'il a réécrit le mouvement final de cette sonate. La sonate a été dédiée à la grande violoniste Jeannette Neveu, qui a perdu la vie dans un accident d'avion, et après, Poulenc a réécrit le mouvement final. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que sa sonate, comme vous disiez, un enfant un peu mal aimé de l'œuvre de Poulenc, je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi, cette sonate est dédiée à la mémoire de García Lorca, le grand poète espagnol qui a été tué par des phalangistes espagnols en 1936. Donc peut-être c'est cette violence de la musique, ce rapprochement avec la mort et ce désespoir en ce qui concerne le destin, peut-être c'est ça qui rend cette musique tellement brisante, je dirais, et peut-être assez compliquée à saisir. Par ailleurs, Poulenc était un très grand ami de Ferrou, donc il s'agit aussi de l'amitié dans ce disque, dans le choix de ce programme. Ravel soutenait beaucoup Ferrou. Ferrou a beaucoup appris chez Ravel en ce qui concerne la tonalité, etc. Et Poulenc était un vrai ami de Ferrou. Et
excusez-moi de vous interrompre, parce qu'en fait, ils sont contemporains, parce qu'il est né en 1900, Ferrou, il est mort tragiquement en 1936 dans un accident de voiture, parce que je le dis parce que les auditeurs ne le connaissent pas forcément. Moi, je ne le connaissais pas avant d'avoir connaissance de ce disque, Vladimir Stoupel.
Tout à fait, tout à fait. Ferrou est mort très jeune, en 36 ans, dans cet accident de voiture. Poulenc en était tellement perturbé qu'il est allé dans un cloître et s'est enfermé dans un cloître pendant 6 mois. Et cela lui a donné l'envie de se réconcilier avec la foi catholique. Il est devenu un très fervent catholique après cet accident, après cette mort prématurée complètement de Pierre-Octave Ferrou, que personne ne connaît. Que personne ne connaît, ce qui est très très dommage. Parce que Ferrou, tout d'abord en tant que compositeur, il a été découvert par le grand compositeur russe Serge Prokofiev, à qui il a dédié sa sonate pour violoncelle et piano d'ailleurs. Prokofiev soutenait Ferrou, Ravel soutenait Ferrou. Et Ferrou, mis à part d'être un compositeur absolument prodige, et, je dirais extraordinaire, il a établi une série de concerts à Paris qui s'appelait Le Triton. Et où passait où sont passés tous les compositeurs importants de son époque, y compris les compositeurs soviétiques, comme Khachaturian ou Prokofiev, qui est redevenu un compositeur soviétique, n'est-ce pas? Et donc, là, à côté de ses activités de compositeur, il avait des activités très importantes dans la vie musicale française. Et malheureusement, c'est peu connu. Et moi, j'aimerais bien qu'aujourd'hui, quelqu'un, Conféro, puisse établir une série de concerts où on présente uniquement les compositeurs contemporains. Ce serait très intéressant.
Vladimir Stoupel, alors justement, vous, vous parlez excellemment français, mais vous êtes russe. Vous êtes venu en France, devenu citoyen français en 85. Il y a un amour chez vous de la musique française?
Oui, pour une raison toute simple. Vous savez, j'ai grandi pendant 22 ans à Moscou, dans un environnement qui était assez hostile à l'ouverture d'esprit, disons. Sinon, si on peut dire ça directement, c'était la ligne du parti, sinon rien. Voilà. Comme il y avait une vieille publicité à la télé, un regard, sinon rien. C'était la ligne du parti, sinon rien. Donc, tout ce qui avait avec des impressions de l'extérieur, on ne pouvait pas voir ça que dans des livres. Les musiques qu'on pouvait entendre étaient assez limitées. Il suffit de dire que jusque les années 70, on a entendu très très peu parler de Schoenberg, la deuxième école viennoise. La musique française était présente en quantité très limitée également, mais à part Ravel et Debussy, on ne connaissait rien du tout. Mais en 84, j'ai pu sortir de l'Union soviétique et m'établir à Paris. Ma première visite était dans une librairie. J'ai regardé le nombre de livres que je n'arrivais pas encore à lire convenablement, parce que juste après mon arrivée, je parlais très très peu le français. Et je me suis dit, ça doit être une culture extraordinaire, il faut que j'aie l'accès à cette culture. Ma deuxième visite, c'était le musée d'Orsay. Et là, j'ai vu pour la toute première fois de ma vie les peintures en vrai. Parce que vous n'allez jamais pouvoir faire une illustration dans un livre qui est aussi belle que la peinture en vrai. Même avec les techniques d'aujourd'hui, même avec l'impression la plus chère sur le papier, le meilleur qui existe, avec des couleurs qui rayonnent, ça reste un livre. Ce n'est pas un tableau. Et donc là, je me suis dit, maintenant je comprends. Je comprends pourquoi Debussy écrivait comme il écrivait. J'ai commencé à comprendre les couleurs, les lumières. Ça, c'est très, très important. Et ensuite, j'étais plongé par accident, si vous voulez, dans la musique française pour piano. J'ai fait beaucoup de musique française.
Vous avez même enregistré la sonate de Ducas.
J'ai enregistré à deux reprises la sonate de Ducas, qui est excellente. La sonate de Ducas me fascine même aujourd'hui, c'est une symphonie pour piano et c'est aussi une anthologie de la musique entre 1899 et 1900. C'est l'anthologie de la musique précédente, par exemple ici de Beethoven, avant le mouvement final. Il y a une citation de Beethoven, on peut en percevoir du Chopin, toutes les musiques romantiques, mais ça reste du Ducas. Je joue aussi d'ailleurs la version pour piano de son Apprenti sorcier. J'adore ça, qui a été écrite par un certain monsieur Lucien Carman, que personne ne connaît, qui était copiste chez Durand, qui a pensé que peut-être il peut faire mieux qu'être un simple copiste. Donc il a fait version pour piano du Carnaval des animaux de Saint-Saëns, et on lui doit également les versions de piano du célèbre concerto de Ravel, en sol majeur. Donc ça, ce sont des œuvres qui me fascinent toujours, et je trouve que la musique française, elle épouse plusieurs éléments qui, pour moi, sont d'une importance primordiale. C'est tout d'abord un jeu de lumière et de ténèbres. C'est l'envers des ombres qu'on retrouve également chez Schubert, par exemple. Et il y a aussi une tradition très grande qui vient de l'orgue, une tradition polyphonique qui est excellente. Chez Louis Vierne, par exemple, qui était un organiste mondialement connu, dans sa sonate pour violon et piano. Chez Ducas, également dans sa sonate, on voit beaucoup d'orgue. Donc toute cette tradition d'orgue, qui m'intéresse beaucoup, bien que je ne joue pas, ou très peu, d'orgue, est dedans, dans la musique des compositeurs français. Il y a une ouverture d'esprit complètement différente que chez les compositeurs germanophones, disons, ou chez les compositeurs russes. Mais il y a aussi beaucoup de points communs entre la musique russe et la musique française.
Musique russe que vous n'oubliez pas, puisque vous avez également enregistré alors l'œuf pour piano de Glinka, vous avez enregistré des quintettes de Borodine, enfin des œuvres quintettes de Borodine et d'autres compositeurs russes. Donc on a l'impression qu'il y a un partage des eaux entre la France et la Russie, même dans vos enregistrements.
Tout à fait, je viens de sortir un disque Glinka, un disque de variations de Glinka, qui est passé d'ailleurs à plusieurs reprises à la Radio France Musique. C'est un disque, on m'a demandé de le faire, parce que Glinka n'était pas vraiment un intérêt primaire de mes occupations musicales. Mais on m'a demandé de mettre en œuvre un disque de Glinka sur le thème de variation. Et ça, c'était très intéressant, parce que Glinka, il a écrit plein de variations et il est rentré dans l'histoire de la musique en tant qu'auteur des variations de Glinka. C'est une forme musicale où le thème reste, mais l'accompagnement change. Et donc c'était très intéressant de faire ça. Et j'ai même trouvé des variations sur le thème de Glinka par d'autres compositeurs russes. Et donc j'ai mis tout ça ensemble et c'est devenu un très beau disque d'ailleurs.
Vladimir Stoupel, ce disque que nous évoquons par ailleurs, Poulenc, Ferrou, Ravel, vous l'avez enregistré avec Judith Ingolfsson, merveilleuse violoniste. Alors votre duo, ça fait un petit moment qu'il existe.
Ah oui, oui, oui. On s'est connus à New York en 2005. Judith a remplacé à pied levé un violoniste européen qui s'est désisté au dernier moment parce qu'il ne voulait pas faire l'aller-retour pour New York pour 3 jours seulement. Donc, il l'a remplacé à pied levé. On a fait la 2e sonate de Schumann, on a fait le rondo brillante de Schubert et elle a joué aussi une partita de Bach. Dans ce concert, je m'en souviens toujours, et ça marchait très très bien. Vous savez, dans la musique de chambre, il suffit d'un accord sur le piano ou d'une première note sur le violon pour comprendre est-ce que ça va ensemble, ça ne va pas. Et depuis, ça va ensemble. On a fondé notre duo en 2006. Notre premier disque, d'ailleurs, que nous avons enregistré ensemble, notre premier disque officiel, c'était l'hommage à un grand compositeur juif polonais, franco-polonais, Simon Lax.
Oui, qui a été déporté d'ailleurs, qui a écrit après, qui heureusement a pu revenir des camps, mais qui a écrit un très beau livre sur sa déportation. Comment est venue l'idée d'enregistrer l'œuvre de Simon Lax?
L'idée est venue de la part de son éditeur, Bose & Hawkes. C'est un ami très francophone, d'ailleurs, c'est un Allemand très francophone. Il est marié à une Française depuis une trentaine d'années, ils sont ensemble, Frank Arders, qui m'a proposé de regarder un peu l'œuvre de Simon Lax, parce qu'il trouvait que notre duo pourrait bien s'en occuper, donc c'est pourquoi nous avons enregistré. Il a écrit Mélodie d'Auschwitz, Simon Lax, et il y a entre-temps un livre en allemand, la traduction, c'est Mélodie d'Auschwitz.
Oui, il a été traduit, hein, son livre.
En allemand, son livre maintenant, oui, avec le disque. Avec le disque, il y a la sonate pour violoncelle et piano, il y a trois pièces de concert, trois morceaux de concert pour violon et piano que Judith a réédité, parce qu'en partie ça a été perdu. Il y a la suite polonaise pour violon et piano également. C'est de la musique justement qui nous a beaucoup intéressés, pas uniquement au cause du destin tragique, mais de l'autre côté optimiste de Simon Lax, qui d'ailleurs après être libéré d'Auschwitz a pris la meilleure décision de sa vie, comme me disait son fils André Lax, qui était prof de philo ici à la Sorbonne. Il a décidé de ne pas rester en Pologne, mais de rentrer à Paris. Et c'était vraiment la meilleure décision de sa vie, parce qu'on sait qu'en Pologne, même après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un antisémitisme profond, et il y avait aussi des pogroms. Il faut l'avouer. Et donc, il est rentré à Paris et il a continué sa vie ici à Paris. Et c'est ce pont entre la musique de l'Europe de l'Est et la musique française qui nous a beaucoup intéressés dans son œuvre. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'enregistrer ce disque.
Vladimir Stoupel, votre curiosité musicale est insatiable. On évoquait tout ce répertoire, et puis Ferrou, Simon Lax, d'autres compositeurs que vous mettez sous la lumière des concerts et du disque. Mais vous, si on vous interroge sur votre répertoire, parce que là, il y a une curiosité, vous allez vers des répertoires qu'on ne connaît pas forcément, vous nous faites découvrir, mais vous, dans votre intimité de pianiste, vous avez des répertoires vers lesquels vous revenez toujours ?
Oui, c'est Schubert. C'est Schubert, c'est Shostakovich, c'est Forêt, c'est Karl Rathaus, ce qui est très intéressant, un compositeur juif autrichien qui a quitté l'Europe en 31 déjà, et sentait très bien que ça allait mal tourner ici, qui est mort aux États-Unis en 56. Et d'ailleurs, c'est deux sonates que j'ai enregistré pour la radio nationale allemande, vont sortir en double disque compact avec Shostakovich, avec les deux sonates de Shostakovich, au mois de septembre. Donc, dans mon intimité de pianiste, vous disiez, c'est vrai d'un côté, et pas uniquement de l'autre côté, parce que je suis aussi chef d'orchestre. Il y a des choses qui m'intéressent en ce qui concerne le répertoire d'orchestre. Par exemple, là prochainement je vais diriger l'histoire du soldat de Stravinsky et je vais diriger aussi
Là c'est, excusez-moi, c'est vraiment le pont entre justement, enfin pas la France puisque Ramu était suisse, mais vraiment entre la francophonie et la Russie.
Ah oui, absolument, absolument. D'ailleurs j'ai trouvé une récitante, j'ai hésité un peu parce que l'histoire du soldat quand même il faut un récitant, il faut que ce soit un homme, pourquoi pas une femme, a dit Judith. Et j'ai dit, bah écoute, oui, pourquoi pas une femme. Et après, j'ai appris que l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dont les membres de l'Académie vont jouer dans mon concert, ont fait ça avec Fanny Ardant. Je me suis dit que dans ce cas-là, je peux faire ça avec une voix féminine. Et c'est une comédienne française qui habite Berlin, d'ailleurs Niki Zischka, ou Zischka, qui va faire la récitante.
Donc elle va faire tout le monde, le diable, le soldat, le récitant.
Oui, oui. Elle va faire tout le monde. Et c'est le 9 mai à l'Institut français de Berlin, avec le même de l'Académie Karajan de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Et ça va être très intéressant, parce que j'ai écouté, comme j'étais intéressé par sa voix, j'ai écouté les exemples de sa voix sur son site. Elle a fait la pub pour L'Oréal, par exemple. C'est très embaumant, c'est très crémeux. C'est L'Oréal. Et après, elle a fait la pub pour une maison de production de produits bio. C'est une voix d'une jeune fille étonnée dans la forêt, étonnée par les richesses de la forêt. C'est une voix complètement différente. Et à ce moment-là, je me suis dit, oui, elle peut le faire. Elle peut faire le soldat, le diable et la princesse, sans aucun problème.
Bah vraiment, on aimerait entendre cette histoire du soldat. Vladimir Stoupel, on parlait de votre curiosité et de votre duo avec Judith Ingolfsson. Comment ça se passe au niveau du choix du répertoire? Parce que là, vous avez enregistré 4 disques donc, de sonates françaises. On a évoqué Forêt, Poulenc, Ravel, Vierne et d'autres. Il y a encore beaucoup de territoires à explorer. Vous continuez sur ce terrain français?
Il y a énormément de territoires à explorer, mais je pense que ce qui est important, c'est de présenter les œuvres dans leur contexte historique. C'est ce qui nous intéresse. Il faut que les enregistrements racontent une histoire. Bien entendu, vous pouvez toujours mettre plusieurs sonates de Beethoven ensemble, et ça marche à merveille, parce que c'est de la musique absolument géniale, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais nous sommes très intéressés, en tant que duo, de mettre les œuvres dans un contexte historique ou culturel, et qu'il y ait un développement. Donc, les projets qui nous intéressent, c'est Victorise, si je peux le dire, en tant qu'un passionné d'Internet. C'est Victorise dans plusieurs directions. D'abord, c'est de la musique française, et nous allons continuer sur ce chemin, parce qu'il y avait un grand violoniste, qui n'était pas tout à fait français, il était belge, mais il était wallon, Eugène Isaïe. Et Judith est issue de son école franco-belge, parce que son professeur à Philadelphie était un élève d'Isaïe, Yasha Brodsky. Il était un élève d'Isaïe. Et donc elle a fait ses études au tout début chez quelqu'un qui était issu de l'école franco-belge. Ce qui est important, parce qu'il faut avoir cette technique pour jouer de la musique française. C'est très, très important d'être connaisseur de cette approche franco-belge. Et donc, on va faire un disque hommage à Isaïe avec la sonate de Franck. On va oser de réenregistrer la sonate de Franck. Il y a 1300 enregistrements à peu près de cette sonate, mais ça nous intéresse tout de même. La sonate de Théodore Dubois, dont nous avons déjà donné plusieurs œuvres, y compris la sonate, le cantet et le quatuor. C'était un très très bon compositeur, Théodore Dubois. Et le poème élégiaque de Jean Isaïe lui-même. Donc ça, c'est un enregistrement qu'on va faire au mois de novembre, qui paraîtra sur un disque probablement début 2019. Ça, c'est une direction de notre duo. L'autre direction est la musique du XXe siècle, Berlin des années 20. Ça nous intéresse aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont à découvrir. C'était une période historique absolument folle, je dirais. Les années d'or de Berlin, comme on dit, oui, on peut le dire que c'était les années d'or, parce qu'il y avait beaucoup de liberté artistique, mais c'était aussi des années de pauvreté incroyable chez une partie de la population, les années de richesse incroyable chez l'autre partie de la population, et les années des expériences qui étaient vraiment très très rares, parce que l'ouverture artistique était totale entre les deux guerres. Et donc, il y a des compositeurs comme Eduard Erdmann, Heinz Thyssen, par exemple, qui nous intéressent beaucoup. Donc, on va probablement faire quelque chose dans cette direction-là également.
La lumière, c'est tout belle. On va faire un retour vers le passé, puisque on disait que vous êtes né à Moscou. Et puis, vous avez travaillé en Russie avec un immense pianiste que les Européens n'ont connu que finalement à la fin des années 70, quand il a commencé à enregistrer notamment avec Karajan. C'est Lazar Berman. Et vous avez travaillé 7 ans avec lui.
Tout à fait. Je travaillais en privé 7 ans avec lui.
Mais en Russie.
En Russie, oui, à Moscou. À Moscou, Lazar Berman était un ami très proche de ma mère, qui est pianiste concertiste elle-même. Et donc, c'est lui qui m'a appris le plus en ce qui concerne le piano. Je ne veux pas nier l'influence qu'ont eu sur moi d'autres pianistes russes, en commençant par Svetoslav Richter, bien entendu, Vladimir Krainev, Igor Zhukov, qui vient de nous quitter, malheureusement. Et mon professeur, bien entendu, au conservatoire de Moscou, Eugène Malénine. Mais c'est surtout Lazar Berman qui m'a influencé le plus. Je l'ai rencontré pour la toute première fois. J'avais 15 ans. Je suis allé le voir. Je lui ai présenté le premier concerto de Franz Liszt. Il m'a poussé de mon tabouret. Il s'est assis au piano et j'ai vu une vraie avalanche, m'engouffrer, si l'on veut. Voilà, je me suis retrouvé sous cette avalanche de son, et c'est comme ça qu'on joue du piano, a dit Lazar. Maintenant, tu vas à la maison et tu vas commencer à travailler. C'est ce que j'ai fait. Je suis allé à la maison, j'avais 15 ans, j'étais complètement intimidé, mais j'ai compris que c'est la voie, c'est le chemin que je veux continuer à suivre, et c'est ainsi que j'ai eu 2 fois par mois, à peu près, des leçons chez Lazar Berman. Et c'est lui qui m'a appris d'avoir un contact, si l'on veut, pas seulement profond, mais intime avec l'instrument. Parce que le piano, c'est quelque chose qui se trouve en dehors de notre corps. Le piano, ce n'est pas le violon qu'on tient à son corps, ce n'est pas le violoncelle qu'on embrasse avec ses mains. Non, le piano, c'est un peu en dehors. Mais il faut se voir traiter le piano comme si c'était un violon, comme si on le tenait dans nos bras. C'est une technique que j'essaie d'ailleurs de faire passer à mes étudiants lorsque je donne des masterclass, par exemple. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et à ce moment-là, il y a une liberté extraordinaire qu'on ressent lorsqu'on joue du piano. Parce que le piano ne devient plus un élément étrange à vous, mais ça devient une partie de vous.
Vous parliez de Schubert tout à l'heure comme un de vos compositeurs de prédilection. On a l'impression, justement, quand on écoute les grands pianistes russes, que Schubert était vraiment un compositeur très aimé, même peut-être plus encore qu'en France dans les années 50 ou 60 en Russie. Il y a beaucoup de grands enregistrements de grands pianistes russes, alors qu'en France, il faut attendre des époques plus tardives finalement pour écouter des grands pianistes français jouer Schubert, où on jouait que les mêmes impromptus. Et c'était dû à quoi cet attachement à Schubert?
Je pense que c'était dû à l'atmosphère générale de l'Union soviétique, au désir de l'échappement. On ne pouvait pas échapper que par la musique ou par l'art, si l'on veut, ce qu'on appelait l'émigration antérieure. Donc Schubert représente une atmosphère qui vous permet d'échapper de la vie réelle, de partir vers le monde extérieur, si l'on veut. Surtout, c'est son côté romantique, bien entendu, qui a beaucoup attiré les pianistes russes. Mais aussi, ce changement très subtil entre le majeur et le mineur, le passage de la vie à la mort, le retour vers la vie, le jeu de lumière. C'est ça ce qui probablement a beaucoup attiré les pianistes russes. D'ailleurs, parmi les pianistes français, j'adore Samson François, qui était extraordinaire.
Oui, mais Samson François, c'est un immense pianiste, mais de mémoire, on ne lui doit pas d'enregistrement de Schubert, justement.
Il n'a pas fait de Schubert. Il n'a pas fait de Schubert. C'est très intéressant. D'ailleurs, si on lit les mémoires de Berlioz, on voit qu'en France, on adorait Beethoven. Par exemple, Schubert, il était beaucoup moins présent, beaucoup moins. Je ne sais pas, il y a Schubert, c'est un énigme, après tout. Sa musique qui s'ouvre tellement facilement aux oreilles des auditeurs est assez exigeante, pas assez exigeante, mais très exigeante en ce qui concerne l'interprète. Donc il faut faire un effort. Quand on joue Schubert, il faut trouver la balance entre le sentiment et l'objectivité. Peut-être c'était aussi ça qui a attiré les pianistes russes.
Vous, Vladimir Stoupel, vous le disiez, vous êtes venu en France en 1984, donc c'était encore l'Union soviétique quand vous êtes parti. Donc vous avez pu partir pas trop difficilement.
Pas trop difficilement, je ne dirais pas. Ma première épouse était française. Et donc, je suis venu la rejoindre. Mais ce n'était pas facile de quitter l'Union soviétique à l'époque. Pas du tout. Et je dois dire que c'était vraiment... Là, maintenant, il neige un peu dehors. C'était vraiment un choc, pas seulement culturel, mais aussi climatique. Parce que la veille de mon départ, j'ai dû nettoyer la voiture de mon père pour aller à la gare. Et deux jours plus tard, j'ai pris le train, le célèbre Ost-West Express, comme disent les Allemands, l'express Est-Ouest, qui passait par Berlin-Ouest. À l'époque, il avait encore le mur. C'était tout ça, c'était très fascinant. Et je me suis retrouvé à Paris, il faisait 15 degrés. Et les gens étaient assis dans les cafés, dehors. C'était vraiment incroyable à voir. Entre la neige et moins 20 à Moscou et plus 15 à Paris, ça fait une sacrée différence.
Et Lazar Berman, après, vous avez gardé des contacts avec lui?
Ah oui, absolument. On s'est retrouvés à Paris à plusieurs reprises. On s'est revus à Berlin. Il venait donner des concerts à la Philharmonie de Berlin. Et j'étais d'ailleurs très triste. C'était un immense pianiste et c'était un concert absolument extraordinaire. Mais il n'y avait que 350 personnes dans la salle parce que l'organisateur de concert a oublié de faire coller les affiches. Et donc, c'était dans les journaux, bien entendu, mais... Dans la salle de la musique de chambre de la Philharmonie de Berlin, avec 1200 places, il n'y avait que 350 personnes, c'était un peu dommage.
Mais vous, Vladimir Stoupel, donc vous avez étudié en Russie, mais alors en France, par contre, vous aviez déjà fait votre apprentissage et vous n'avez jamais reçu l'enseignement français?
Non, je n'ai jamais reçu d'enseignement français, j'ai reçu par contre un peu d'enseignement allemand, parce que quand je me suis retrouvé à Paris, je n'avais pas de papier. J'ai quitté le conservatoire de Moscou juste avant mon diplôme pour ne pas être appelé sous le drapeau de la glorieuse armée soviétique qui à ce moment-là menait une guerre en Afghanistan. Et d'ailleurs, c'était une politique du gouvernement soviétique d'envoyer les enfants de ce qu'on appelle l'intelligentsia à la ligne du front, pour couper court aux critiques, qu'il n'y a pas de génération qui continue à mépriser ou même combattre le pouvoir soviétique. Mon père, qui était très actif dans le milieu, ce qu'on peut dire, anti-soviétique, il a reçu la médaille Sakharov après la chute du pouvoir soviétique. Il était très content que je puisse quitter l'Union soviétique, même sans mon diplôme. Et j'avais des amis à Hambourg qui m'ont proposé de venir voir, à l'époque, un très célèbre professeur à Hanovre, Karl-Heinz Kemmerling, qui m'a pris dans sa classe. Et c'est ainsi que j'ai eu mon diplôme d'enseignement et d'artistisme supérieur, ce qu'on appelle en allemand, ça s'appelle Konzertexamen. Bon. Personne ne m'a jamais demandé ce papier, mais au moins je l'ai.
Vous l'avez, vous le méritez amplement. Il suffit de vous écouter, Vladimir Stoupel, et d'écouter ce disque qui vient de paraître. Vous êtes aux côtés de Judith Ingolfsson, donc quatrième volume de musique française avec Sonate de Poulenc, deuxième sonate. Alors on dit la deuxième sonate de Ravel, en fait elle est beaucoup plus connue. Il y a une autre sonate de jeunesse de Ravel qui est quasiment jamais jouée.
Oui, quasiment jamais. Je ne sais pas pourquoi personne ne la joue, mais peut-être on va la jouer un jour. C'est intéressant aussi que Ravel a pris 5 ans pour écrire sa deuxième sonate. Le temps de gestation est énormément long. Il disait qu'il voulait éliminer toutes les notes qui sont superflues. Probablement, elle avait raison. Mais il disait aussi que pour lui, écrire pour violon et piano est une chose extrêmement compliquée parce que ce sont deux instruments qui se marient très mal. Ce qui est vrai. Mais il y a des moyens quand même de les faire marier.
Oui, quand on vous écoute avec Judith Ingolfsson, on ne doute pas de la pérennité de ce mariage des sons et des timbres. Vladimir Stoupel, on termine avec Férou, justement, qui est la grande découverte de ce disque. Il y a d'autres répertoires de Férou qui paraissent très intéressants et qu'on ne connaît pas.
Oui, j'ai joué aussi sur sa sonate pour violon, pour violoncelle et piano, qui est dans un certain sens plus accessible. Didier Prokofiev, d'ailleurs, il est un quatuor. Il y a beaucoup de musique pour flûte. Il a écrit beaucoup de musique pour flûte. Il y a des heures pour l'orchestre. Je pense que Radio France a programmé pour le 12 mai un de ces heures pour l'orchestre. Il y a aussi un opéra. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quand même, il a laissé pas mal d'œuvres. Je pense qu'il faut redécouvrir Férou. Il faut redécouvrir Férou parce que ça fait partie intégrale de l'histoire de la musique française. Et il ne faut pas qu'il y ait un trou à sa place. D'ailleurs, j'avoue que je connaissais Férou uniquement par son nom, parce que je connais un peu l'histoire de la musique française, mais je ne connaissais pas sa musique. Et finalement, c'est par hasard qu'on a découvert sa sonate et on a décidé de la prendre et de la jouer.
Bien, on vous en remercie. En tout cas, Vladimir Stoupel, merci pour cette évocation à la fois de votre itinéraire et de ce disque qui vient de paraître, puis l'autre disque, Glinka aussi, qui vient de paraître. Et merci beaucoup d'avoir été mon invité.
C'est moi, merci beaucoup.